passage dans la maison qui dort. La bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour.
Charles Trenet, 1000 chansons, des films, une poignée de romans, des peintures, quelques histoires sulfureuses, une vie riche, passionnée, passionnante. Que reste-t-il de Charles Trenet, qui aurait eu 100 ans cette année, Cabu ?
Il le dit dans une chanson qu'il avait composée après un récital. Ça donnait ça. Et demain, chantez-les mes chansons, qu'elle garde ta foison, la joie dans votre maison. C'est ça, c'est qu'on peut chanter Trenet. Moi, je chante Trenet comme ça, en marchant. Parce que c'est une poésie déjà. C'est une poésie familière et sur des rythmes de jazz. Ça doit vous dire quelque chose. Pas tout jazz, mais parce qu'il a fait. On croit qu'il a fait que du swing, mais non, il a fait des valses, il a fait même des tangos. Enfin, un tango, un seul tango qui dit ne reviens jamais, horrible tango qui sent le mégot et la pompe funèbre. Il aimait pas le tango. Mais comme vous dites, c'est un univers poétique d'abord, mais une poésie à la Max Jacob, si vous voulez, qu'il a connue. Parce que c'est ça aussi qui différencie des chanteurs d'aujourd'hui. Il a rencontré des intellos, mais pas ennuyeux, quoi. Cocteau, il a même rencontré... Comment s'appelle-t-il ? Enfin, il a rencontré le monde qui comptait à l'époque, le monde intellectuel qui comptait à l'époque. Et aujourd'hui, on rencontre pas tellement de chanteurs qui vont vers les poètes ou les auteurs, quoi. C'est plutôt maintenant le showbiz, c'est TF1 avec The Voice, quoi. Mais vous me direz que c'est des carrières plus courtes aussi.
C'est vrai que quand on évoque la carrière de Charles Trenet, on parle du poète. Le poète de la jeunesse, du bonheur, de la joie de vivre. Et derrière cette fantaisie, l'homme avait choisi de dissimuler ses gouffres intimes. Hein, sous le vernis de la légèreté, le fou chantant chanta aussi la mort, la solitude, la tristesse, le chagrin, l'abandon. Il y a ces thèmes qui sont sous-jacents chez Trenet qu'on peut entendre ou pas.
Exactement. Parce que tout est suggéré, mais vous savez, je pense que la première fracture qu'il a connue dans sa vie, c'est le pensionnat à 7 ans. Il s'en est jamais remis et il a toujours dit qu'il voulait refabriquer une enfance. Parce que ses parents ont divorcé, il avait 7 ans, ils l'ont foutu chez les bons pères à Béziers. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez une chanson qui s'appelle « L'abbé à l'harmonium », c'est formidable. Parce que, à mon avis, il évoque là les tendances qu'il affleura plus tard dans sa vie intime, mais toujours sous-entendu, toujours effleuré comme ça. Il parle de l'abbé qui pédalait si bien à l'harmonium. C'est drôle. Donc, vous avez raison, il y a tous les sentiments qui figurent dans ces chansons. Mais ce qu'on retient quand même par rapport aux autres chanteurs, c'est la joie de vivre, oui, c'est vrai. Moi, je retiens ça d'abord. Après, des chansons comme La folle complainte, non, c'est pas la joie de vivre. Mais ça se termine toujours par un souffle comme ça, par une envolée, par une énergie, voilà. C'est pas plombé à la fin. Ces chansons ne sont pas plombées à la fin. C'est toujours... un espoir que demain ça ira mieux et qu'il y croit, quoi. C'est vrai.
Alors dans le répertoire de Charles Trenet, il y a les chansons qu'on aime, qu'on retrouve toujours avec plaisir, et quand on se replonge dedans, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on découvre de nouveaux textes et de nouvelles chansons.
C'est vrai, c'est inépuisable, hein, parce que vous parliez de 1000 chansons. Il a fait quand même plusieurs standards de jazz. Il restera aussi par les musiciens de jazz qui continuent à jouer. Que reste-t-il de nos amours? Il paraît que c'est le standard le plus joué. C'est pas la mère parmi ces chansons. Je ne sais pas dire le titre en anglais, mais vous le direz. Donc, grâce aussi aux musiciens de jazz, il sera joué très longtemps. Il est joué dans les écoles aussi. Il est chanté dans les écoles. Il est chanté dans les chorales. Vous savez, il y en a beaucoup en France. Et lui, il disparaîtra pas de sitôt, traîné.
Alors, il a su, dès les années 30, amener le swing, amener le jazz dans la chanson française. On le sent dans sa musique, dans son interprétation. On parlera de l'interprète tout à l'heure, parce que c'est un fameux interprète.
Chante bien.
Mais il a su amener une découpe on parlait de poésie, de texte, et il a su, faire swinger les mots.
Oui. Parce qu'il paraît-il qu'il a découvert le jazz à Berlin, parce que sa mère, donc, a divorcé parce qu'elle était infirmière et elle avait rencontré dans un hôpital un soldat allemand qui était réalisateur, qui s'appelait Benny, et qui l'a emmené à Berlin, donc après le pensionnat, à 13-14 ans, elle l'a emmené à Berlin, et là il a découvert le jazz, elle l'a inscrit dans une école de dessin aussi. Donc un autre aspect de Trenet, c'est qu'il a peint toute sa vie. C'était pas un grand peintre, mais il dessinait pas si mal,
On va en parler tout à l'heure, parce
hein.
que forcément, quand on rencontre un dessinateur, on a envie de parler aussi de l'art pictural de Charles Trenet. Là, on est sur le swing et sur la
Oui,
découpe des
alors.
mots, et même avant d'être un chanteur zazou, puisqu'il s'est frotté aussi au zazou, il a vraiment travaillé sur une découpe bien particulière des mots.
Exactement. Alors, j'ai eu récemment la révélation par Jean-François Pittet qui fait un blog qui s'appelle Heidi Ho, c'est à la gloire de Cab Calloway, qu'en 1934, Cab Calloway a fait une tournée et est passé à Pleyel et on a retrouvé des traces de Charles Trenet et de Johnny en 34,
Johnny S.
Johnny S,
Et non pas
qui
Johnny.
sont allés voir ce autre fou chantant qu'était Cab Calloway. Je ne sais pas si ça lui a donné des idées, mais...
Oh, dans Débit de lait, Débit de l'eau,
Oui, hein.
il y a un peu du Cap Calloway là-dedans.
C'est vrai. Et dans une chanson comme Terre, Terre, oui, c'est toi, Terre, Terre, qui donne la joie. Là aussi, il y a des... Il se catte, là, carrément, à des moments. Donc, lui, il disait qu'il avait beaucoup aimé, qu'il avait découvert Gershwin. Voilà ce qu'il aimait. C'est pas mal, hein, parce qu'il a fait beaucoup de standards aussi, Gershwin.
Dans ma rue, il y a deux boutiques. Dans l'une, on vend de l'eau, dans l'autre, on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde, en revanche, où l'on vend du lait. C'est pour ça que tous les passants les montre du doigt en disant: ah, qu'il est beau le débit de lait, ah, qu'il est laid le débit de l'eau, débit de lait si beau, débit de l'eau si laid. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Au débit d'eau, il y a le beau Bobby. Au débit de lait, il y a la belle Babée. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le Bobby et la Babée sont ennemis, car les badauds sont emballés par les bidons de les Babées. Mais on maudit de l'endébit. L'on les bide et l'on bidon du débit d'eau de Bobby. Aussi Babée ses bidons vidés, elle les envoie sur le dos de Bobby. Les Bobby lui répond en jetant les bidons d'eau de son débit, allez donc. Le beau débit de lait.
Au débido, il y a le beau Bobby. Au débile, il y a la belle Babé. Ils sont vraiment gentils, chacun ont leur débit. Mais le Bobby et la Babé sont ennemis. Car les panneaux sont emballés par les bidons de les Babé. Ils ont maudit le long débit. Le long débit, le long bidon du débit de Bobby. Aussi Babé, le bidon vidé. Elle les envoie sur le dos de Bobby. Et Bobby lui répond en jetant les bidons. Les bidons d'eau sont des billes, les dons. Les bidons d'eau sont des billes, les dons.
Alors, on parle de l'auteur de chansons, on parle du compositeur, et là, c'est l'auteur de La mer, de Que reste-t-il de nos amours, effectivement, de standards qui sont encore énormément joués par tous les musiciens. J'ai envie de parler de l'interprète, moi.
Eh bien, oui, on en parle très peu, mais je crois qu'il José Arthur disait de lui qu'il avait l'oreille absolue. Moi, je crois à ça aussi. Parce que, on le voit, encore, j'ai des témoignages, quand il enregistrait, s'il y avait un musicien qui n'était pas dans la note, aussitôt, il disait, on l'a refait. C'est vrai qu'il chantait bien, il chantait très 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 bien. Donc c'est un auteur, compositeur, interprète. Parfait, quoi, pour moi, pour nous. Mais c'est difficile de chanter traîné d'ailleurs. C'est comme ceux qui essaient de chanter Brassens, c'est peut-être un peu plus facile peut-être de chanter Brassens. Parce qu'il y a moins ce rythme-là.
Et cette complexité de la mélodie qui est toujours très précise et
oui,
très belle.
Oui.
Alors parlons du peintre maintenant et du dessinateur, parce que toute sa vie en fait. Il s'est toujours amusé. Et j'ai l'impression que c'est une époque où le dessin faisait partie de la vie des gens, plus facilement que maintenant.
C'est vrai qu'il a fait quantité de coins de nappe où il caricaturait Cocteau et Mac Jacob. Et vous savez qu'il a dessiné aussi la maison qu'il a fait construire après à Antibes Jean Lépin. C'est lui qui l'a construit. Et c'est à la forme d'un bateau, elle était belle cette maison. Donc, il savait faire beaucoup de choses en dehors de la chanson, mais non, je pense que son talent, vraiment, c'était la chanson.
Donc, on oublie la peinture.
Oui.
Le comédien, il a tourné dans pas mal de films. Il y a quand même une petite vingtaine de films.
Alors, on dit que, justement, il était parti en 1947 aux États-Unis avec un contrat pour Hollywood, mais... Il n'y a pas de trace de ça. Il n'a jamais tourné à Hollywood, mais comme vous dites, il a fait des films. Et il a des sketchs aussi où il joue vraiment la comédie. C'est un sketch où il fait le professeur de diction. C'est vraiment très drôle. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, il avait... Et puis il imitait, par exemple, j'ai le témoignage d'un chansonnier qui s'appelait Léo Campion. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était un des rares chansonniers anarchistes parce que... Souvent, les chansonniers étaient plutôt de droite, quoi. Et il m'a assuré que pendant une tournée en zone libre, pendant l'occupation, Trenet présentait ses chansons en imitant Pétain, mais en se foutant de la gueule de Pétain, quoi, évidemment. Et il imite Maurice Chevalier aussi, souvent.
Alors,
il faut le voir aussi comme... Parce qu'on dit, il y a des témoignages qui disent qu'il était dur dans la vie. Oui, mais... Il se foutait, il était contre la bêtise et souvent il attaquait la bêtise par l'humour noir, vous voyez. Il se moquait des gens et souvent c'était pas compris ça non plus. Mais c'était un déconneur dans la vie. Et ça c'est sûr que il riait tout le temps et il était très copain dans les années 40-50 avec Francis Blanche. Et il faisait des canulars ensemble, paraît-il, oui.
Alors, auteur, compositeur, interprète, comédien, peintre et écrivain également. Vous avez lu quelques romans signés Charles Trenet ?
Oui. La Bonne Planète, oui. Mais là encore, peut-être que d'autres pouvaient écrire comme ça, mais... Aucun chanteur ne pouvait écrire les chansons qu'il a écrites. Voilà. Moi, je retiens uniquement le chanteur. Enfin, pas une. Oui, parce que quand il est arrivé à Paris, il voulait être poète. Mais bon, il s'est aperçu peut-être qu'on ne pouvait pas gagner sa vie avec la poésie. Mais il y a des... il est allé présenter des poèmes à Monterland, figurez-vous, qui lui avait pris un poème dans je ne sais plus quelle revue. Léoto aussi, dans le Mercure de France, lui a publié des poèmes parce que il avait connu à Perpignan un poète régional qui s'appelait Bozil et qui l'a vraiment qui l'a fait lire beaucoup de livres et qui l'a c'était son maître en poésie, si vous voulez. Et ce Bozil connaissait quand même quelques grands noms à Paris, et donc il l'a recommandé. Et c'est vrai qu'il voulait écrire au début. Et puis après, il a été accessoiriste au studio de Joinville. Et là, il a commencé à écrire des chansons pour un film où il fallait en dépannage, si vous voulez. Donc ça a marché, il s'est fait remarquer en écrivant ses chansons. Le film est resté inconnu. Et puis après, il a présenté une chanson à comme le petit Cassancourt, on l'appelait comme ça. On en parlait tout à l'heure de le premier chanteur qui a chanté avec un micro, Jean Sablon. Et c'était Vous qui passez sans me voir. Et cette chanson a eu du succès. Ça l'a lancé auprès des éditions Breton, qu'il a gardé toute sa vie. Il a présenté aux éditions Breton Il y a de la joie. Le Breton l'a donné à Chevalier, qui était réticent, qui lui a fait toucher parce qu'il disait que c'était un peu trop foufou pour lui. La chanson a eu du succès. Il y a une anecdote parce que c'était à l'époque où Chevalier se séparait de Mistinguett et Mistinguett était dans la salle quand Chevalier a chanté Il y a de la joie. Et à la fin de la chanson, elle a gueulé, je traînais, le chante mieux que toi. Ce qu'elle l'avait entendu chez l'éditeur breton. Là, il a fait son service militaire. Il a écrit des tas de chefs-d'œuvre. Et puis, donc j'ai oublié la période Charles et Johnny. Mais en rentrant du service militaire, là, il a chanté seul et puis il a explosé en mars 38 avec six chefs-d'œuvre, dont J'ai ta main, il y a de la joie, boum, je chante, et puis La Biguine à Bongo, ça c'est moins connu, et La Vieille, voilà. Six chansons, six chefs-d'œuvre. Et puis, il n'a pas eu beaucoup de chance quand même parce qu'il a démarré et la guerre est arrivée. Donc là, il a continué à chanter.
Il avait un contrat d'ailleurs hein, pour partir à Hollywood juste avant
Oui, c'est
la
ça.
guerre,
Oui.
et ce contrat s'est formalisé seulement après-guerre en 46.
Voilà, c'est ça, c'est vrai.
Demandez le dernier succès du docteur Goebbels. Avec la photographie du Führer et des principaux collaborationnistes en uniforme de pendu. Demandez la complainte des nazis. Écoutez bien, on va vous chanter le premier.
Une année finie, l'autre commence. L'un après l'autre, les mois s'avancent, apportant dans leur cortège bleu la promesse de jours plus heureux. Et pendant que la victoire s'apprête à revêtir ses habits de fête, le voile noir des désastres s'étend, oui, sur le Reich et ses derniers amis. C'est la complainte des nazis, le crépuscule avant la nuit, qui met au cœur des Hitlériens l'âpre terreur du lendemain. Elle exprime par ses accents la sourde angoisse du châtiment. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. miliciens, moucheurs, tristes apôtres. Cette complainte est également la vôtre. Vous les traîtres, les vendus, les paumis, vous les lâches et les la vôtre aussi. Tortionnaires, bourreaux et mercenaires, et le rythme votre heure dernière. Collaborateurs, écoutez-la bien, c'est pour vous que chante ce refrain. C'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. Et en chœur, c'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis.
Donc là, on lui a reproché d'avoir continué à chanter pendant la guerre, mais moi je trouve qu'il a bien fait parce qu'il a... Il a créé quelques belles chansons. Et d'ailleurs, il n'a pas été. Il est passé devant un comité d'épuration, mais dans un livre qui va paraître bientôt aux éditions Charlie, il y a le compte rendu du comité d'épuration et il est absolument blanchi. Parce qu'il avait été obligé aussi de chanter pour les prisonniers français en Allemagne avec Édith Piaf. Il devait faire trois séjours et il n'en a fait qu'un parce qu'il a mené une vie tellement dure aux autorités allemandes qu'ils ont renoncé aux deux autres voyages.
On lui reproche aussi des textes teintés pétainistes un peu, non ?
Moi, je crois pas. C'était l'ambiance Front Populaire. Évidemment, les gens découvraient la nature, mais je ne connais pas de traces pétainistes, hein, non. C'était la découverte de la nature, c'était les champs de marche aussi, parfois, mais c'était pas, il n'y avait aucune idéologie pétainiste, non, non.
Ce qui est sûr, c'est qu'il a été profondément marqué à cette époque-là, et qu'il est parti 3 ans pour assurer un contrat au Canada, mais 3 ans absent de France.
Oui, c'est vrai. Et on peut dire que c'était le premier chanteur... franco-canadien, enfin après c'est les Canadiens qui sont venus avec Félix Leclerc, mais lui a chanté beaucoup au Canada, il a fait des chansons d'ailleurs là-bas, dans les rues de Québec, c'est très joli. Donc il est revenu et là c'est le premier chanteur français à avoir fait un récital tout seul, quoi. Il était tout seul en scène pendant 2 heures, c'était à l'Étoile, premier récital en 52. Et puis, il a eu quand même beaucoup de succès, même si ses chansons étaient moins connues qu'au début. Et puis, malheureusement, il y a eu l'époque yéyé. Là, il est obligé de partir, quitter la France. Puis il a fait une grande tournée, il est retourné en Amérique du Sud, au Japon. Et puis, il est revenu. C'est-à-dire, il a eu plusieurs vies, je pense, artistiques. Au fur et à mesure qu'il composait des nouvelles chansons. C'est grâce à Higelin, il est revenu au Festival de Bourges, j'ai assisté à ça. Higelin a chanté avant l'entracte une première partie avec plusieurs chansons de Trenet. À la fin de cette première partie, il a présenté Trenet, c'était un public très jeune, et puis Trenet a chanté son répertoire et ça a marché. Donc il a été relancé là pour plusieurs années. Et puis, dans les années 80, à la fin des années 80, il y a un producteur canadien qui a réussi à le faire revenir sur scène parce qu'en 76, il avait dit qu'il voulait prendre sa retraite. Il n'avait que 65 ans, là. Donc il a rechanté, et là, à chaque fois, il retrouvait un nouveau public. Il a chanté au Châtelet, vous savez, comment ça s'appelle, à Playel. Là, c'était son dernier concert. Playel, c'était en décembre 99. Et il est mort 2 ans après. Et là, miracle, il avait gardé sa voix. C'est ça aussi qui est étonnant. Parce que j'ai connu d'autres chanteurs que Mouloudji, pendant 10 ans, les 10 dernières années, il ne pouvait plus chanter. Il avait perdu sa voix. Et ce que Trenet l'a gardé jusqu'au bout.
Alors, Cabu et Trenet, à quel moment vous l'avez rencontré, vous l'avez croisé? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce qui a fait votre passion?
J'ai pas cherché trop à le connaître dans sa vie personnelle, parce que je me suis toujours méfié, comme Brassens, si vous voulez. Les gens qu'on admire, je pense que... J'ai toujours pensé, ce qui était important, c'était son œuvre. Ce qu'il faisait, c'est ses chansons. J'ai pas voulu trop le... Enfin, je sais pas s'il m'aurait accepté d'ailleurs, mais... Voilà, je l'ai rencontré comme ça. J'avais dessiné dans le Journal du Dimanche, je dessinais à l'époque là-dedans, pour sa rentrée au Théâtre de la Ville. Il passait à 18h30 et c'était des places pas chères, c'était pour les étudiants, quoi. Donc, il a téléphoné au journal pour avoir l'original, en disant, vous direz au dessinateur de venir me voir dans ma loge. C'est ce que j'ai fait, évidemment. Et là, on a parlé gentiment. Je me rappelle, justement, il avait un tableau qui représentait Collioure. Et puis, on a parlé dessin, parce que, il n'y a pas de doute, il dessinait aussi. Et puis, c'est tout. Ça a duré, quoi, un quart d'heure. Et il m'a dit, revenez me voir. Après, il passait à Bobino. Enfin, 3 mois après, je suis allé le revoir dans sa loge, c'est pareil, on a parlé 5 minutes. Je ne l'ai pas vu dans d'autres conditions, j'ai toujours vu à la sortie de scène, quoi. Et c'est très bien, je n'ai pas de regrets, parce que je vous dis, ce que je retiens, c'est ses chansons, et ça me suffit.
Aujourd'hui, quand on va à Narbonne, visiter la maison de Trenet, dans la maison, on trouve des dessins de Cabu.
Oui, ça, je suis très fier. Il y a des dessins sur les murs et puis qui sont pas punaisés, ils sont vraiment dans les murs. Parce que c'était inauguré l'an dernier, parce que la municipalité de Narbonne a racheté la maison natale de Trenet, ce qui est le long de la voie ferrée. C'est un peu une maison de garde-barrière, vous voyez. C'est pour ça aussi qu'il y a tellement de trains dans ces chansons. C'est quand on va dans ces chansons, dans cette maison, vous verrez, on comprend beaucoup de choses. Et c'est très intéressant de la visiter. Il y a plein de fantômes là-dedans, dans les armoires, on voit le piano de sa mère. Parce qu'il faut dire que son père et sa mère étaient musiciens. Sa mère était une bonne pianiste, paraît-il, et son père, il jouait de la guitare et du banjo. Il était notaire, mais surtout déconneur, il paraît. C'était un déconneur, un notaire déconneur, ce qui était étonnant.
Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils, par son mari qui s'était enfui à la ville, dans une superbe panhard et le vassor, qu'il conduisait en plein essor, lui écrivait ses mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant. Au lieu de partir dans le vent, je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne, toute la nuit le moteur vrombrira et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduiront peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc. Quel programme elle avait trouvé là? L'époux volage, hélas, ne revint pas si tôt, escamoté par son nuage de poussière, courant partout, Nice, Paris, Paris-Bordeaux, sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut ainsi pendant plus de 40 ans,
Et puis un soir, tout le printemps, il revint voir sa belle d'antan qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes aux yeux, il répétait aux deux bons vieux. C'est la minute d'émotion. Ah, quel bonheur à la porte du garage. Quand tu parus dans ta superbe auto, papa, il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'aux flammes du coteau. Demain, demain, sur la route de Narbonne, toute la nuit, le moteur vrombrira, et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Pour terminer ce voyage de poète et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser, papa.
En concert, vous l'avez vu combien de fois?
Ah oui, je l'ai vu à chaque fois qu'il est passé à Paris, je l'ai vu une trentaine de fois, j'ai compté. Alors le plus drôle, je vais vous dire, c'était une fois en 77 à la Fête de l'Humanité. Alors on l'attendait, le temps passait, on était une heure passée, une heure et quart, et toujours pas de traînée. Et tout d'un coup, on l'a vu arriver quand même sur scène, mais il n'était pas avec son costume de scène bleu, ni son œillet, ni sa cravate blanche. Il était en marron, c'est tout juste, il n'était pas en pantoufles, il y avait des drôles de godasses, enfin... On s'est dit, mais il est arrivé quelque chose. Mais au bout d'un quart d'heure, son orchestre, il l'attendait depuis une heure et quart. Et il a eu un gros succès. Il y avait 30 000 personnes. Hein, c'était sur la grande scène de la fête de l'Huma. Et après, j'ai su ce qui s'était passé. Une heure avant, il avait téléphoné à la fête de l'Huma en disant, finalement, j'ai pas envie de venir chanter à la fête de l'Huma. Alors, ils ont dit, bon, très bien. Ils n'ont rien dit. En fait, il y a des gros bras du service d'ordre de la CGT qui sont allés le kidnapper carrément chez lui, de la Courneuve. Il habitait à la Varenne à l'époque, c'est pas tellement long par les boulevards extérieurs, vous voyez. Et ils l'ont kidnappé, et on m'a raconté qu'il voulait quand même au moins prendre son costume de scène. Il a dit « Non, non, vous allez vous partir par une porte dérobée, on vous emmène comme ça ». Donc ils l'ont amené, ils l'ont posé sur la scène. Mais c'était une bonne soirée quand même. Il a toujours eu un succès. Chaque fois que je l'ai vu, il a eu beaucoup de succès.
Alors, je sais que vous emmeniez voir, vous emmeniez votre fils voir Manosolo.
Manosolo, il l'a vu plus de trois fois. Trois fois, je m'en rappelle en tout cas. Mais quand il était petit, j'ai peut-être une... Mais enfin, il l'a vu trois fois quand il était déjà, et quand il avait 10, 14 ans, oui, oui. Mais je l'ai emmené voir aussi Count Basie, Duke Ellington, et Cap Calloway.
Il était à bonne école.
Oui. Et il m'a dit, à chaque fois, il me disait, c'est quand même beaucoup, non surtout la dernière fois, parce que là, il était auteur de chansons, il m'a dit, c'est beaucoup plus dur de faire des chansons de traînée, parce que c'est beaucoup plus dur de faire cette joie de vivre, quoi, qui est quand même qui a quand même une profondeur, qui a quand même une consistance. Et il me dit c'est toujours plus facile de faire d'exprimer une tristesse, parce que c'est plus naturel, c'est vrai. On est tous comme ça, enclin à une nostalgie ou une... Un pessimiste quand même. Est-ce que lui, il va vous dire que la vie est belle? Si, si, la vie est belle, puis vous y croyez quand vous l'écoutez chanter.
Vous avez des chansons cachées, des chansons que vous aimez de Charles Trenet, que vous aimeriez nous faire partager?
Évidemment, il y a des chansons que personne ne connaît, qui sont formidables. Parce que c'est des chansons, c'est une suite de croquis souvent. C'est des petits tableaux. Il y a des chansons où il raconte une histoire, comme dans Le Grand Café, il raconte l'histoire d'un type qui, un flambeur, qui arrive au début, puis il offre à boire à tout le monde, et puis finalement il a pas de quoi payer, et il va rester toute sa vie comme serveur dans ce café, dans ce grand café, pour payer son écho. Mais il y a d'autres chansons qui sont des petits flashs comme ça, une chanson, mais c'est difficile à chanter ça, qui s'appelle « Quand descend le soir ». Ou bien la tarentelle de Caruso. Ça, c'est à la fois des petits tableaux et une histoire. Donc, moi, je le vois un peu comme La Fontaine. Il fait des fables aussi. Il fait des petites fables. Et quelquefois, il y a une petite morale, enfin. Comme dans la chanson de l'ours, il dit que l'ours, il servait à tout dans le village. Et c'est comme il devient conseiller municipal, maire, et puis ça marchait bien. Et il finit en disant, s'ils avaient le même ours à Paris, parfois, on dirait du La Fontaine, quoi. Mais en plus, il y a ce rythme. C'est cette chanson qui s'envole toujours. Voilà, je ne sais pas comment il faisait. Parce que les témoignages, moi, j'arrive pas à savoir comment il créait tout ça. Parce qu'il disait que souvent, il écrivait paroles et chansons, paroles et musique en même temps. J'ai du mal à croire ça, quand même. C'est-à-dire, à mon avis, il y pensait souvent, beaucoup dans sa tête, et puis une fois que c'était fini, il achetait comme ça et tout le monde criait au miracle. Mais en fait, je pense qu'il a travaillé dans sa tête depuis un certain temps. Mais il n'a pas c'est pas le genre à travailler assidûment tous les matins. Non. Il paraît qu'il composait beaucoup en voiture. Mais voilà, c'était pas un grand travailleur, en fait. C'était un surdoué de la chanson, c'est sûr. Parce qu'on voit bien qu'il y a des phrases comme ça qui sortent, c'est pas travaillé, c'est spontané, quoi. C'est jeté comme ça et ça tombe pile, quoi.
Mais il a comme des fulgurances.
Des fulgurances, ouais, voilà.
Merci, Cabu.
On pourrait en parler sans s'étendre, hein.
Vous connaissez les actualités d'avant-guerre et les premiers films de Charlot. Leur décor pourrait être celui du Grand Café, de ce café de province où les joueurs de manille fument et crachent dans une atmosphère d'aquarium et de plantes vertes. Voici la chanson que le Grand Café m'a inspirée. Au Grand Café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard. Bien installé devant la grande table, vous avez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au Grand Café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur. Bien installé devant la grande table, on écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris Soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du Grand Café. Par terre on avait mis de la cire de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit. Bien installé devant la grande table, vous invitiez des ducs, des connétables. Quand il fallut payer soudain l'addition, vous avez déclaré, moi j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisque à tous vos effets, vous étiez fait au Grand Café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant. Vous essuyez toujours la grande table, c'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manilleurs. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au Grand Café, au Grand Café. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer de l'époque 1900 à l'époque Louis XIV. Changez l'aiguille, tournez le disque, et vous pourrez entendre ainsi la polka du roi.